Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, toujours autant de plaisir à vous retrouver chaque lundi, 19h, 20h30. Alors ce soir, ça va être pratiquement tout foot. Certes, on aura le journal Omnisport bien dense et bien chargé d'Alexandre en fin d'émission. Sinon, on va voir tout foot. On va avoir d'abord un privilège, celui d'avoir le président du Paris Saint-Germain, Pierre Ferracci, au téléphone vers 19h15. Et puis, comme prévu, comme promis, on avait prévu de faire le bilan de la saison foot. On va accueillir celui qu'on a régulièrement au téléphone, qui avait déjà été un de nos invités au tout début de nos émissions au Paris Sport, c'est Stéphane de Danco. Bonsoir Stéphane, ça va,
pleine forme ? Bonsoir Philippe, ouais. Ça va, très bien. Ouais. Très
merci
bien.
D'être venu, parce qu'on avait notre ami Guy Missin qui était prévu.
Je suis un petit bouche-trou.
Non.
Plutôt gros bouche-trou.
Guy est tombé dans les escaliers, plus peur que de mal, tout va bien, et donc il est en train de se reposer, donc on le salue bien fort, et il se prépare déjà pour la saison prochaine, il y aura une Coupe du Monde de foot.
La finale. Guy, qui est un grand supporter aussi quand même du Paris Saint-Germain.
Très bien, elle nous parlera de ballon ce soir. Et oui, c'est un événement, tout arrive. C'est Vanessa, bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe. Ça va ? Très bien.
Tu es prête pour le Paris Saint-Germain ?
Oui.
La finale, puis pour le bilan de cette saison foot. Lui aussi nous parlera foot ce soir, mais il n'a rien aussi raté de l'actu sportive. Il y avait Monaco, il y avait Roland-Garros, il y avait le basket malheureusement, il y avait le rugby. Bonsoir Alexandre, ça va bien ?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ça va, pleine super. Forme, ça va ?
Pleine forme.
Très bien. Ok, le championnat de Ligue 1. Ensuite, on rentrera, je l'ai dit, dans le vif du sujet avec Pierre Ferracci, le président du Paris FC. Je voulais simplement vous dire qu'il y a eu 911 buts dans ce championnat. Ça veut dire 93 sans pénalty. Stéphane, c'est 2,9 par match, ce qui est une moyenne supérieure à celle de l'an passé, qui était 2,7. Il y avait eu 826 buts la saison passée.
Oui, tout à fait. Écoutez, ça a plus de monde. Et puis, je pense que vous avez.
Et la journée la plus prolifique, alors, c'est souvent le cas, ça a été la dernière journée. On se libère un peu, on se lâche. Il y a des équipes qu'on peut rien jouer. Il y a eu 38 buts dans cette 34e journée. Et puis, la 10e journée a été la journée la moins fertile en buts, avec 16 buts. Et il y a eu 27 948 spectateurs de moyenne. Il y a même eu 41 000 pour la dernière journée, ce qui est supérieur à l'année dernière, où il y a eu 27 023. Donc, vous voyez, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Mbappé. Et on vient encore plus au stade. Il y a même eu 320 000 abonnements de plus dans les clubs, sur l'ensemble des clubs, ce qui représente un total de 4% de plus.
Tout à fait. Puis après, on va nous dire qu'on n'arrive pas à vendre le. On va constater.
Ça, c'est paradoxal.
Ce qui veut dire quand même que les matchs de foot, ils restent attrayants, en tout cas au moins pour ce qu'on dirait le local. C'est-à-dire les supporters vont voir leur stade, leur équipe, ils vont au stade. Et puis voilà, donc je pense que ça devrait aussi quand même beaucoup apprendre beaucoup de choses, au président de club.
On demandera à Pierre Ferracci.
Veut dire quand même que le produit, il est là. Simplement, après, il faut peut-être faire en sorte que le produit, on l'apprécie quand on va au stade, plus qu'avant encore. En tout cas, au moins autant, mais même un peu plus. Alors pourquoi ne pas l'apprécier aussi quand il est à la télévision, quoi. Donc ça peut aussi apporter pas mal de réflexions.
Alors, il y a eu 1142 cartons jaunes cette année. Il y en avait eu 1157 l'an passé. Donc, on a été un petit peu plus sage sur les terrains de foot. Et 67 cartons rouges. Il y en a eu 60. Non, mais 69 pour l'an passé. C'est des stats qu'on donne à chaque fin de championnat. Alors, une stat qui, je suis sûr, va te plaire. Et là, tu vas pas t'en moquer. C'est le Paris Saint-Germain qui a été l'équipe qui a marqué le plus de buts à domicile, 45 buts. Et plus à l'extérieur, 47 buts.
Logique. Ouais. Je pense qu'ils sont l'équipe qui a fait plus que tout, quoi. Qui a la meilleure attaque, la meilleure défense, qui a tout mieux que les autres. Donc,
c'est le club français le plus titré. Hein, voilà. 13 Ligue 1, 13 trophées des champions, 16 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue, une Coupe des Coupes. Et peut-être Espérons, Ligue des Champions, on en reparlera pour le week-end prochain. Alors, naturellement, dans les buteurs, on l'avait dit la semaine dernière, hein, Dembélé et Greenwood avaient été arrivés en tête avec 21 buts chacun, mais naturellement avec un ratio supérieur. Dembélé termine en tête donc, de ce classement des buteurs. 29 matchs, il a marqué 21 buts pour 29 matchs, contre 21 buts pour 34 matchs pour Greenwood. Et en plus, je crois que Greenwood a marqué plus
de
penalties.
Oui, en fait,
voilà. Donc ça fait 0,72 pour Dembélé contre 0,62 pour Greenwood.
Ouais, ce qui fait surtout à la base, là, ça c'est par exemple effectivement ce qui devrait être le critère normalement décisif, mais en fait, donc il l'a été du coup, mais en fait le vrai critère qui...
c'est les ratios.
Le vrai c'est celui-là, mais celui qui décide du vainqueur, c'est le nombre de pénalties marquées. C'est 7 pénalties pour Greenwood et je crois qu'il y en a un pour Dembélé.
Oui.
Ce qui veut dire que...
Enfin,
que...
après le pénalty, c'est que l'équipe domine. Hein.
Oui,
dans ces cas-là, l'Argentine, Messi, en 2022, voilà.
Ouais, tout à fait, mais c'est pour ça que je dis que moi, je pense qu'effectivement, le premier critère pour départager deux joueurs qui ont marqué le même nombre de buts, c'est effectivement le ratio. Je dis juste que dans le règlement de la Ligue, le critère numéro 1 mais même si on dit que le pénalty, c'est un geste technique, c'est compliqué... Oui.
C'est un geste de footballeur, hein, comme a dit Platini.
C'est quand même plus facile de marquer un pénalty qu'un but dans le cours du jeu, comme pour les passeurs. Faudrait distinguer aussi les passeurs qui tirent les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners ou les coups francs, de ceux qui ne tirent pas les coups de pied arrêtés. Je pense par exemple à... Quelqu'un comme Bradley Barcola, par exemple, ne tire pas les coups de pied arrêtés au Paris Saint-Germain. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir aussi dit, je ne sais pas, je ne suis pas trop intéressé à ça, je ne sais pas si Ryan Cherki est celui qui tire les coups de pied arrêtés.
Je ne sais pas, mais en tout cas, Cherki, c'est le meilleur passeur du championnat avec 11 passes décisives.
Il fait une grande saison.
Alors, pour revenir sur les buteurs, ce qui était intéressant, c'est que pour le même nombre de matchs l'année dernière, Mbappé était quand même à 27 buts. Hein.
Ouais.
Donc il y a 6 buts de moins quand même pour Dembélé et encore moins pour Greenwood.
Ouais, tout à
donc
fait.
Il était... Bon, Alexandre, t'en penses quoi de cette saison, de ces stats? Tiens, justement, ces augmentations de supporters, ces augmentations de buts, et pourtant on a du mal à voir les matchs à la télé et les gros sont partis, sont plus sur les terrains de France.
Pour moi, ça en dit long sur le pseudo des intérêts finalement du peuple français au football. En fait, c'est juste tout simplement parce qu'on n'arrive pas à voir le foot, parce qu'on a un problème de visibilité et de retransmission. On l'a vu avec DAZN, on l'a vu avec c'était Mediapart ou Mediapro à l'époque.
Oui, il y a eu Mediapro, il y a eu DAZN,
Amazon Prime, etc. Ouais. Donc c'est ça le véritable problème. Donc là, on va voir ce qu'ils vont faire les présidents avec les...
On va en parler au président Ferracci tout à l'heure.
On reste par contre en termes d'affluence, comme tu disais, on reste quand même un peu loin des concurrents européens parce que finalement, même la deuxième division allemande, elle est au-dessus de nous en termes d'affluence.
Ouais.
Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Quoi.
Stéphane ?
Moi j'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure.
Le fait que les affluences, quand même dans certains pays européens, sont encore meilleures qu'en France, même si on est en progression quand même assez régulière.
Oui, tout à fait. Maintenant, après, c'est une question de culture à la base, de club. Après, il faut voir par rapport à ce que disait ça. Je n'ai pas fait particulièrement l'étude, mais il faut voir aussi après les tailles des stades, toutes ces choses-là, prix des places.
Il y a aussi des faits importants.
Il y a plein de choses qui sont
les derbies. L'année prochaine, il n'y aura plus Lyon-Saint-Etienne. Bon, il y aura un PFC Paris-Saint-Germain. Il y a des derbies du Sud, des Nice-Monaco. Il y aura des derbies bretons l'année prochaine, un peu plus. Brest, Lorient et puis Rennes. Donc, ça joue quand même, parce que ça plaît quand même, ces derbies.
Oui, ça plaît,
bien sûr. Aussi.
Ça plaît,
du monde.
Ça va exactement dans le sens de ce que moi, je pense, c'est que tout est... Le foot, il y a un produit, mais après, il y a aussi toute une mise en scène, tout un spectacle. On sait que d'où est né le fameux classico, l'opposition entre l'OM et le Paris Saint-Germain, dans les années Canal+, Bernard Tapie...
Tapie baise au départ,
Tout a été monté tout a été monté un peu en épingle pour justement ce côté spectacle, ce côté... c'est aussi aux gens, à tous les acteurs du football, et pas seulement les présidents de clubs, mais aussi, bien sûr, en premier point, mais aussi les médias, tout le monde, de faire en sorte que ça grimpe, quoi.
Mais justement, quand vous dites que c'est plus ancré dans la culture, par exemple en Allemagne, comme vous le soulignez, Alexandre, Est-ce que en France...
Non, j'ai dit peut-être.
Oui, peut-être. Moi, peut-être, peut-être, peut-être. Est-ce que peut-être, c'est une observation que je vais peut-être faire, Marseille n'est-il pas la ville qui échappe un peu à ce constat en France?
Ah, pas que Marseille.
Mais, non, non, mais justement, l'idée, c'était que quand on va à Marseille, on a le sentiment quand même que c'est beaucoup plus ancré dans, ah,
c'est
dans
sûr
la
que
ville.
Le foot là-bas, c'est important. C'est sûr.
Oui. Voilà.
C'est sûr.
Et donc, est-ce que Marseille, par rapport aux villes allemandes, peut-être même anglaises, est-ce qu'ils sont, ils se rapprochent pas un peu plus que Paris, où on a peut-être une autre identité, même s'il y a le foot qui est très présent, mais c'est une question, une interrogation.
Non, mais ça c'est sûr. Mmh. Mais après, je pense que c'est impossible de comparer. Je pense que c'est impossible de comparer Marseille et Paris, par exemple, pour l'attrait du football, parce que déjà en nombre d'habitants et tout, on s'est multiplié par je sais pas 5, 6, 7, et ensuite après par le nombre d'attractions, le nombre de tout ce qui peut se passer à Paris. C'est vrai que Paris, c'est différent. Maintenant, Saint-Étienne, par exemple, c'est une ville aussi où on vit vraiment football, quoi. Et Saint-Étienne en Ligue 2, par exemple, fait aussi des énormes affluences. Donc c'est aussi ça. Puis on a vu même par exemple Bordeaux. Ouais.
C'est le rugby maintenant qui a pris le dessus là-bas.
Oui, mais quand même, regardez là, il y a certains matchs de National 2, donc du quatrième niveau, du quatrième niveau français de foot, qu'il y a eu plus de supporters dans le stade qu'il y a eu pour les matchs de Ligue 2, par exemple, quoi. Mmh. Donc après, puis regardez Monaco. C'est vrai, toutes les villes ont leur spécificité, leur particularité. Je crois que Lens, par exemple, a fait aussi. Je crois qu'ils ont, je ne suis pas sûr cette année sur la fin parce que ça a été moins bien, mais ils ont fait beaucoup de matchs pareil à huis clos dans leur stade et tout. Donc alors, pourtant, Lens, c'est combien d'habitants?
Très bien. On va écouter la première pause musicale. On va changer un petit peu le timing de l'émission, ce qui va nous permettre d'appeler tout tranquillement donc, le président Ferracci dans quelques minutes. Et puis ensuite, on poursuivra donc, cette émission spéciale sur donc, le bilan des saisons de Ligue 1, Ligue 2, nationale et féminine, version 2024-2025. La musique avant et ensuite le président Ferracci.
Tu te mets le cambouis sur les mains ou tu mets le cap sur les îles. Une mauvaise note au destin ou un bon point si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville. Shérif, que je la sonne. Belle marquise, mes shrimps, belle baronne. Mille et mille et mille et mille et mille, on est un joueur de blues. On est
Voilà, comme prévu, donc, on a le président du Paris FC, Pierre Ferracci, au téléphone. Monsieur Ferracci, merci en tout cas pour donc, ces quelques minutes au micro de mon Paris FM. J'ai envie de vous poser comme question, pour commencer, quelle saison, hein ?
Ben, quelle saison, oui. on a la chance d'avoir en un week-end valorisé des années de travail, avec le vendredi la montée en Ligue 1 et puis le samedi... la finale de la Coupe de France où notre équipe féminine a battu le PSG. Donc ça fait un week-end du 2 et 3 mai royal et on est ravis, on savoure, même si on s'est déjà remis au travail pour préparer la saison prochaine.
Oui, alors vous l'avez dit, c'est l'aboutissement d'années et d'années de travail en coulisses, dans la simplicité. Hein.
Oui, une douzaine d'années de travail pour structurer le club, pour développer le centre de formation. Je dirais maintenant les deux centres de formation, parce qu'on est aussi parti pour mettre en place le centre de formation féminin, avec quatre places de barragiste en 6 ans, je dirais même en 5 ans, puisqu'il y avait l'année du Covid où il n'y en avait pas. Donc, chaque fois, on titillait le haut niveau, mais sans passer la barre. Donc là, on s'était fixé dans les 2 ans l'objectif d'être dans les 2 premiers. Bah, dans la première année, on a réussi, on est ravis, d'autant qu'on accueille de nouveaux investisseurs qui auront passé beaucoup moins de temps en Ligue 2 que moi. J'en suis ravi pour la famille Arnaud et pour Red Bull. On a préparé le terrain pour que, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 2, hein, parce qu'il y a des clubs et des dirigeants très valeureux, nos nouveaux investisseurs vont se retrouver en Ligue 1 très vite. Et on a beaucoup de travail, mais en tout cas, on est content d'y arriver, avec en plus le basculement à Jean Bouin, qui va aussi nous changer un petit peu la vie.
Oui, alors justement, pas trop de regrets de quitter Charletti, qui était quand même depuis 2006 votre ADN quand même.
Oui, ben, sur le plan affectif, on est toujours attaché à un lieu. Bon, après, on sait très bien que Charletti ne réunit pas les conditions pour qu'on exerce au plus haut niveau. Oui. Déjà, en Ligue 2, on bricolait un petit peu, notamment pour recevoir nos partenaires. Les spectateurs, les supporters, les ultras sont très loin du terrain. Mais à Jean Bouin, on a un très beau stade qui a à peu près la même contenance, hein, autour de 20 000, mais qui est bien fait pour recevoir à la fois les supporters, les ultras et puis les partenaires de plus en plus nombreux qui rejoignent le club. Et on est ravis de cohabiter avec le Stade Français, qui est aussi un club historique, en espérant, mais je crois qu'ils veulent faire, qu'ils se maintiennent. En top 14, oui, il a une année difficile, mais on leur fait confiance, ils vont aller au bout quand même.
Et les filles, elles vont jouer où alors ?
Alors les filles vont jouer en partie à Charletti toujours, donc c'est pour ça qu'on ne quitte pas Charletti. Mm-hmm. Et puis elles feront des matchs importants à Jean Bouin. On a un espace pour pouvoir leur faire jouer quelques matchs non négligeables de Ligue des Champions peut-être, ou contre Lyon, contre le PSG. On va voir comment elles profitent aussi de l'arrivée à Jean Bouin, parce qu'elles le méritent. Elles sont pour la 4e année consécutivement en Ligue des Champions. Elles ont titillé, elles ont gagné la Coupe de France, mais c'est la seule équipe qui a pris des points à l'Olympique Lyonnais cette année. Et c'est méritoire. Elles ont fait 2 fois match nul, alors que toutes les autres équipes ont perdu leurs 2 matchs. Donc elles ont vraiment fait une excellente saison, et j'ai plaisir à le dire, parce que bon, la montée en Ligue 1 efface un petit peu tout, mais les filles sont là et on est ravis d'avoir investi dans le football féminin comme on l'a fait, et de nouveaux actionnaires le sont également.
Alors le centre d'entraînement, lui, il va grandir un petit peu sur Orly ?
Alors on est en pleine négociation avec les collectivités locales et le département du 94 pour passer de 8 hectares où nous sommes aujourd'hui à environ une vingtaine. Et passer de 4 terrains à 8 ou 9 dans les années à venir, et en tout cas très vite la saison prochaine pour 2 terrains supplémentaires. On est à l'étroit, puisque à Orly, vous le savez, on a à la fois les 2 équipes premières, le siège du club, mais aussi les 2 centres de formation masculin et féminin. Donc ça fait beaucoup de monde aujourd'hui, et on est ravis avec nos nouveaux actionnaires de pouvoir augmenter rapidement notre surface de jeu.
Alors maintenant il va falloir grandir naturellement. Vous avez déjà pensé un petit peu au mercato, au recrutement ?
On travaille depuis des semaines avec nos amis de Red Bull, mais sur ce sujet-là je vais être une tombe.
Absolument, vous avez raison.
Les négociations sont toujours très compliquées, la situation du football français, vous le savez, n'est pas simple.
Non, on va en parler.
Donc, on travaille et notre objectif est simple, hein, cette année se maintenir, ne pas avoir d'accident, et on sait très bien que ça peut arriver. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie, on a des actionnaires puissants qui ont des ambitions élevées dans les années à venir, mais comme Antoine Arnaud l'avait dit lors de la première conférence de presse, on n'a pas envie de brûler les étapes, on va y aller tranquillement, avec beaucoup d'ambition, mais tranquillement, en posant les bases d'un vrai beau projet pour demain.
Et comment vous allez vous démarquer par rapport au Paris Saint-Germain? Vous allez essayer de faire un club un petit peu plus populaire, qui soit un petit peu le vivier de l'Île-de-France?
Bah, écoutez, nous, on respecte beaucoup le PSG parce que c'est un grand club et je lui souhaite le meilleur samedi, bien sûr, en finale de la Ligue des Champions.
Vous y serez, non? Vous serez supporter du Paris Saint-Germain samedi?
Oui, j'y suis samedi, c'est je bien. Fais ce déplacement. Mais je suis sûr qu'on va faire quelque chose de différent et c'est normal qu'on fasse quelque chose de différent. En tout cas, en termes de tarifs, on aura des tarifs plus populaires parce qu'on a un public populaire. Et le PSG a fait des choix que je respecte, hein, bien entendu, mais on n'en est pas tout à fait là en termes de résultats sportifs et donc de résultats économiques. Mais notre objectif est de remplir Jean Bouin avec un public nombreux qui aime à la fois le football masculin et le football féminin, avec des ultras qui sont déjà de plus en plus nombreux à Charletti et qui seront encore plus en Ligue 1 à Jean Bouin. Donc voilà, on a envie d'un engouement autour du Paris FC qu'on est en train de construire, avec pas mal d'initiatives qu'on a en tête pour fédérer tous ces supporters et donner notamment, je le précise parce qu'ils sont parfois décriés, la place à nos ultras, ceux des ultras Lutetia et ceux des Old Clan, qu'ils méritent, parce qu'ils nous ont accompagnés depuis des années, et parfois dans des moments difficiles. Parce que là, on parle de la montée, mais on a eu aussi des moments difficiles où nos ultras étaient là, et je suis ravi qu'on puisse leur offrir à Jean Bouin un cadre plus propice pour qu'ils s'expriment et qu'ils soutiennent encore mieux le club.
Oui. Il y a déjà des nouveaux abonnés? Ça afflue déjà les demandes?
Alors, on n'a pas encore lancé la campagne d'abonnement, mais alors les promesses d'abonnement, oui, on en a de partout, et les promesses pour les loges aussi, et pour les salons... VIP, il n'y a pas de problème. Je pense que ça va se bousculer au portillon et on est ravis d'avoir cet engouement autour de nous. Il y a un vrai engouement, je veux dire. Tout le monde rêve d'un deuxième club à Paris en Ligue 1. Ça fait 40 ou 50 ans que tout le monde en parle et nous, on l'a fait. Et donc, je pense qu'on profite aussi de ce courant populaire qui nous porte depuis un moment. Et l'opération qu'on a faite de gratuité en Ligue 2, même si on ne va pas la maintenir en l'état en Ligue 1,
ce sera difficile. Oui,
il y aura encore des places gratuites, mais pas autant parce que les enjeux économiques sont d'une autre nature. Mais en tout cas, elle nous a apporté un courant dont on bénéficie depuis déjà plusieurs mois. Alors, les beaux résultats font aussi partie de cette attractivité nouvelle. Et je crois qu'on a bien travaillé dans le club pour fédérer tous ces supporters qui nous appuient depuis déjà un bon moment.
Vanessa ?
Oui, bonjour Monsieur Ferracci. D'après vous, est-ce qu'il y a assez de supporters à Paris pour justement ces deux clubs, Paris FC et Paris SG ?
Oh, largement, vous savez, je crois qu'en région parisienne, il y a, je crois, 13% des licenciés de la Fédération française de football. Ça fait du monde. Et je pense que même si le PSG écrase un peu tout depuis 40 ans, et tant mieux pour lui, et notamment depuis 15 ans, depuis que le Qatar est arrivé, bien sûr qu'il y a la place pour un deuxième club, déjà en région francilienne. Et puis, moi, je crois aussi que les provinciaux à Paris, qui sont nombreux, les Corses, les Bretons, les gens du Sud-Ouest et de l'Est de la France, ils vont soutenir leur équipe quand elle va venir à Paris jouer une fois. Mais après, s'ils aiment le football, ils vont venir au Paris FC pour soutenir notre club comme il le faut.
Justement, c'est une belle année pour le football francilien. Il y aura deux clubs la saison prochaine donc en Ligue 1, deux clubs parisiens, le Red Star donc en Ligue 2 et trois clubs en National quand même, le Paris 13, Atlético, un club qui a eu un petit peu un parcours comme vous, Fleury Mérogis et puis Versailles.
Oui, Fleury, je suis ravi pour Pascal Bovis qui travaille depuis des années, qui a bien réussi dans le football féminin, puisqu'ils sont en première ligue avec nous. Et là, je pense qu'il mérite de monter en national depuis le temps que lui aussi, il bute sur le dernier obstacle, c'est très bien. Et puis, Paris 13 et Versailles, ça fait une richesse du foot francilien. Un club en Ligue 2, deux en Ligue 1, trois en national. Je pense que le football parisien est en train de prendre son essor ou de revivre des belles années qu'il a vécues il y a très longtemps. Et c'est très bien pour... les jeunes franciliens et les moins jeunes d'ailleurs qui aiment le football.
Oui, et puis vous pouvez être un vivier à travers le PFC.
Mais j'espère qu'on sera un vivier. Oui. On développe aussi des relations avec beaucoup de clubs amateurs parce qu'il y a de la formation partout. Nous, c'est un objectif permanent de bien former les jeunes dans notre centre de formation. Mais on travaille aussi avec des clubs formateurs amateurs qui font de l'excellent travail et si on peut avoir aussi pour eux des débouchés intéressants sur le plan sportif d'abord et puis sur le plan économique ensuite, on en est ravis.
Stéphane ?
Oui, président, bonsoir. Je voulais vous demander votre le principal défi du Paris FC, votre principal défi aujourd'hui pour arriver à bien justement passer ce cap de la Ligue 2 à la Ligue 1, c'est lequel ? Réussir le mercato, boucler le budget, là, vous le situez où le principal défi ?
Oh, ben, il est à la fois économique et sportif. Économique, j'ai la chance, mais c'est aussi tout le travail qu'on a fait depuis la douzaine d'années que j'évoquais, d'avoir aujourd'hui des actionnaires puissants et surtout déterminés à porter un projet très loin et très haut. La famille Arnaud, accompagnée en plus par Red Bull, qui a un savoir-faire dans le sport en général et dans le football en particulier, qui est très, très intéressant. Donc, sur les enjeux économiques, malgré la crise du football, je pense qu'on sera présent. Et puis après, sur le plan sportif, ben, vous savez, il faut, quel que soit le budget, il faut bien travailler. Je pense qu'on a un staff de grande qualité. On a bâti une équipe en Ligue 2 de grande qualité. Ben, il faut bâtir une équipe pour la Ligue 1, qui est un niveau beaucoup plus élevé. Hein. Le gap entre la Ligue 1 et la Ligue 2, on sait qu'il est très important. Ben, il faut continuer à bien travailler, à recruter et à former, parce que j'espère bien que le Paris FC, demain, sera un réceptacle pour les jeunes en équipe première. Sans rêver immédiatement à ce qu'a fait Barcelone à la Masia, il faut que... avec le vivier de la région parisienne, il y a un débouché pour les jeunes potentiels. Donc, pour revenir à votre question, bah, il faut continuer à travailler d'arrache-pied, sachant qu'on passe à un niveau qui est le meilleur niveau du football français. Et vous avez entendu la famille, à terme, la famille Arnaud, à terme, ils ont envie de jouer la première partie du tableau. Dans un premier temps, on va déjà veiller à se maintenir, hein, et ce n'est pas un championnat facile aujourd'hui. Dans un deuxième temps, les actionnaires et la direction du club et toutes les structures du club viseront plus haut et à s'installer dans la première partie du classement durablement. Vous savez, la Ligue 1 aujourd'hui, c'est la première partie du classement qui joue l'Europe et la deuxième partie qui essaye d'éviter de descendre en Ligue 2. Donc, si on veut s'installer demain, pas tout de suite, mais dans la première partie, il faut bien travailler, commencer par se maintenir et puis après bien travailler pour franchir les étapes suivantes. Mais sans faire de folie, et pour revenir à ce que disait Antoine Arnaud, étape par étape, sans brûler les étapes, c'est comme ça qu'on construit un projet durable, et je l'espère qu'il durera beaucoup, beaucoup de longues années devant nous.
Alors, présent, il y a eu des bons indices cette année, beaucoup de buts, plus de spectateurs, plus d'abonnés, et pourtant, il y a des petits problèmes au niveau des droits télé. La Fédé, elle travaille actuellement sur une refonte des instances professionnelles du foot. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que la démarche qui a été initiée d'ailleurs avec la commission sénatoriale dans un premier temps, le projet de loi qui est porté par les sénateurs aujourd'hui et les propos de Philippe Diallo, le président de la Fédération, tout ça va dans le bon sens.
Oui.
Bon, après, il y a des étapes à franchir qui ne sont pas négligeables. Hein. D'abord, un projet de loi, par définition, ce n'est pas une loi. Il faut que ça passe au Sénat et puis à l'Assemblée. Et il peut y avoir des obstacles. Mais là où ça va dans le bon sens, c'est que on veut créer les conditions d'une ligue professionnelle qui soit au niveau des standings européens les plus élevés. C'est-à-dire qui, d'abord, évite de se diviser en permanence sur des sujets économiques ou sur des sujets sportifs, et donc met en œuvre des compétences et des qualifications élevées, évite aussi des gouvernances, les clubs se tapent dessus. Donc je crois que quand Philippe Diallo parle du modèle anglais, il sait bien que les clubs là-bas sont des actionnaires de la société commerciale qui fait la fondation de la Ligue anglaise. Mais il sait très bien que ces actionnaires désignent des personnalités indépendantes. Ce ne sont pas les clubs qui sont représentés dans l'exécutif ou dans le conseil d'administration. Je pense que c'est la bonne voie parce qu'il faut beaucoup de savoir-faire pour développer le football professionnel aujourd'hui. Je ne parle même pas du football anglais, hein, qui est très très haut sur le plan économique, mais déjà pour ne pas se laisser larguer par le football allemand, le football italien, le football espagnol. Je crois que vous citez des exemples de fréquentation des stades. Le football français mérite une meilleure valorisation que celle qu'il a aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut travailler autrement. Nicolas Taverneau est arrivé, je pense qu'il a les compétences pour le faire. Il faut créer une chaîne de la Ligue, mais avec l'appui des opérateurs. Alors on verra si ça sera beIN, Canal, DAZN ou d'autres. Il faut réintégrer Canal dans le football, dans la relation avec le football, parce que le foot a fait Canal et Canal a fait le foot. Je crois que ça a été une erreur grave que de couper les ponts avec Canal, de se fâcher avec Canal. Donc, il faut les remettre dans le jeu, mais pas seulement eux. Hein. Pendant longtemps, beIN et Canal ont formé un binôme qui a bien développé les droits audiovisuels. Ben, il faut retrouver quelque chose qui ressemble à ça. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il y a encore du travail à faire. Et le projet de loi, pour l'instant, encore une fois, ça reste un projet. Il faut qu'il passe les obstacles de l'Assemblée et du Sénat.
Eh oui, Alexandre.
Oui, bonsoir, Monsieur Ferracci. Bah, concrètement, on sait qu'il faut vendre le produit et on voit ça en Angleterre, ça marche très bien. En Espagne, ils commencent à s'y mettre. Est-ce que vous seriez prêt à... Parce que ce qui marche, c'est rentrer dans les coulisses, rentrer dans les vestiaires. Est-ce que vous seriez prêt à ouvrir le vestiaire, à ouvrir la vie du club pour les caméras et voir un peu comment ça se passe dans le club?
Et bien évidemment, Canal l'a fait dans tous les sports. Il avait commencé à le faire dans le football, il le fait en Formule 1, il le fait en Top 14. Les présidents, les directions des clubs sont prêtes à se prêter au jeu des opérateurs audiovisuels, à condition que ça ne gâche pas la préparation sportive. Mais ça, les coachs, les joueurs sont habitués et puis il y a des cadres qui sont définis. Oui, il faut être beaucoup plus ouvert, c'est évident, c'est partie du spectacle aujourd'hui. Et ceux qui ne peuvent pas venir au stade, ils ont envie effectivement de rentrer dans les coulisses, de voir un très beau match de foot, de voir de belles pelouses, de voir des spectateurs nombreux dans les stades. Donc il y a des compromis à trouver qui sont des compromis pour moi relativement faciles parce que ça sert tout le monde. Ça sert les opérateurs qui développent les prestations télévisuelles, mais ça sert aussi les clubs en matière de droit économique. Donc il peut y avoir parfois des petits inconvénients, mais ils sont mineurs par rapport aux avantages que ça procure.
Très bien. Merci en tout cas, M. Ferracci. Pour finir, donc, il y a un beau trait d'union avec Rai, hein, entre le Paris Saint-Germain et le PFC. Ce serait une très bonne chose pour le foot français que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions samedi?
Bien sûr que ça serait une bonne chose pour le football français que le PSG gagne la Ligue des Champions. Bon, ça fait une quinzaine d'années, je crois, que les Qataris sont arrivés. C'était en 2010-2011. Oui. Bon, après, il faut du temps. On a vu que Manchester City a attendu aussi 15 ans. Hein. Je crois qu'ils sont arrivés 2 ans avant les Qataris. Ils l'ont gagné il y a 2 ans. Voilà, il y a beaucoup de grands clubs européens. Il ne faut pas sous-estimer l'Inter de Milan. Hein. Les Italiens, sur un match, sont toujours des adversaires forts et puissants. Mais le PSG a une occasion cette année. Ils ont une belle équipe. Oui. Et Enrique fait du beau travail. Et puis, il y a une équipe, j'allais dire... Et une équipe, ce n'est pas seulement une suite d'individus, même si je suis ravi que Mbappé termine meilleur buteur du championnat espagnol. Mais là, il y a une vraie équipe, un vrai beau jeu. Bon, maintenant, ça reste une finale et il va falloir que le PSG batte l'Inter de Milan. Ce n'est pas gagné d'avance, mais ils ont la chance de pouvoir le faire et le talent pour le faire.
Très bien, en tout cas, oui. Juste une question, Vanessa.
Juste une dernière question. À terme, est-ce que vous pensez que le PFC peut mettre une fessée au PSG?
Pas pour l'instant, il faut être raisonnable, pas pour l'instant. On a battu l'équipe féminine, on était très fiers au pénalty.
Ah bah oui, hein. Faut pas oublier.
On a fait 2 nuls en championnat, ils nous ont battus en play-off, même s'ils ont été battus par l'Olympique Lyonnais ensuite. Je pense que chez les filles, on est arrivé aujourd'hui, on l'a montré cette année, au même niveau que le PSG. Bon, chez les hommes, ils ont un budget stratosphérique, c'est une très très belle équipe et surtout un passé... Ces dernières années, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, mais ils ont accumulé les titres de Coupe de France, de championnat. Donc, on n'en est pas encore là. On va déjà éviter dans les derbies de se faire battre trop facilement. Et ça, je fais confiance quand même à l'équipe demain.
Et pour les filles, c'était un beau cadeau d'adieu à Gaëtan, hein, Tinet.
Ah, Gaëtan, c'était un super cadeau pour elle. Elle n'avait pas gagné de trophée. Ah, oui. Elle était fidèle au club depuis 17 ans. Elle aurait mérité de faire les Jeux Olympiques pour l'ensemble de sa carrière internationale. Je pense qu'elle aurait apporté beaucoup de choses parce qu'elle a fait une excellente saison cette année. Hein. Elle n'a pas simplement terminé en roue libre. Notre victoire en Coupe de France, comme notre place en championnat, lui doit beaucoup. Donc, on est tous ravis pour elle. C'est une joueuse de grande qualité. Et comme Rai, ce n'est pas seulement une joueuse ou un joueur. C'est une femme aussi de grande qualité qui peut apporter beaucoup au football féminin demain.
Oui, dernière question. Bon, on a parlé, vous avez quitté Charletti, vous êtes à Jambouin maintenant, mais à terme, le stade, on parle que le Paris Saint-Germain pourrait partir du Parc des Princes. Est-ce que vous voulez aller au Parc des Princes? Est-ce que vous voulez être propriétaire de votre stade? Parce que maintenant, c'est ce qui se fait. Est-ce que vous avez un objectif à long terme?
Non, mais avec Antoine Arnaud, on ne croit pas d'abord que le PSG quittera le Parc des Princes.
Je suis d'accord aussi.
On verra bien ce que... la question de la propriété, elle ne se pose pas aujourd'hui en France de la même façon que dans d'autres pays. Bon, l'Olympique de Marseille n'est pas propriétaire de son stade et le PSG non plus, et ils ont quand même des résultats remarquables. Et puis nous, je vais vous dire, on a signé pour 4 ans à Jambouin. On est ravis d'arriver à Jambouin dans un très beau stade, ravis de coopérer avec le Stade français, même si on aura quelques petits problèmes de calendrier à gérer. Et donc, pour l'instant, ça suffit à notre bonheur. La suite, on verra. On va faire grandir le club à Jambouin et je pense qu'il a les moyens de grandir dans ce beau stade de la Porte d'Auteuil.
Très bien, merci beaucoup, président. On viendra vous voir hein, tout au long de la saison.
Avec plaisir, voilà. Vous serez les bienvenus.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour tout. Voilà, donc pour l'interview du président du Paris FC, donc Pierre Ferracci. Alors, tiens, on va enchaîner, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, tu as aussi parlé du Paris Saint-Germain et du Paris FC à l'occasion de la présentation
de Paris en scène. Voilà. Donc, tout un tas de festivités pour cet été.
Oui, alors vas-y.
Donc on va écouter.
Tu nous en dis un peu plus d'abord.
Oui, bien sûr, tout à fait. Donc à cette conférence était présente évidemment Anne Hidalgo avec son adjoint au sport Pierre Rabadan et puis l'adjointe à la culture Karine Roland. Et puis il y avait Rai.
Bah justement.
Donc, voilà, on l'a rencontré puis je l'ai.
Oui. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rai?
Alors justement, on va l'écouter sur son regard sur le PSG puis après le PFC.
Voilà, donc on va demander à Jason de passer l'interview faite donc cet après-midi où on entend donc Pierre Rabadan et puis Rai, c'est ça hein ?
C'est ça, exactement.
Voilà, allez, on les écoute.
Quel est votre sentiment sur le PSG d'aujourd'hui, vous qui avez, vous êtes un ancien du PSG ? Ouais, la Coupe de France et la semaine prochaine la Ligue des Champions.
Moi, ouais, je crois qu'une des forces de le foot français, il y a eu beaucoup de difficultés, mais une des forces de foot français, c'est la. C'est les jeunes, hein, c'est la formation, c'est les. Je crois que c'est le pays où il y a plus. La dernière Coupe du Monde, par exemple, il y avait 26 joueurs qui sont issus de la région parisienne. C'est pas que la France, de la région parisienne. Donc ça montre le comment ça a été bien fait de la dernière. Années, le projet des formations, des jeunes des clubs qui ces structures de plus en plus pour avoir un bon centre, des bons centres de formation, à l'exemple de Paris FC. Et là, Paris, je crois que le Paris Saint-Germain, je crois qu'ils ont profité de ça, hein, ils commencent à mettre des jeunes qui former une équipe de jeunes, miser sur un collectif, un jeu collectif, je sais pas, un entraîneur qui valorise ça aussi. Donc je suis content pour le Paris Saint-Germain parce que pour cette politique, mais aussi qui montre que c'est une équipe, c'est un groupe qui est très très fort déjà. C'est le favori pour moi la finale. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais c'est des favoris pour tout ce qu'ils ont montré jusqu'à là. Mais qui est en moyenne très jeune, ça c'est bien. Donc ils vont avoir un groupe très très fort pour les prochains 5-6 ans au moins.
Et justement, sur le Paris FC, alors quel regard vous portez avec notamment cette montée en Ligue 1?
Oui, c'est une équipe déjà qui investit beaucoup dans la formation, qui est dans la mixité aussi pour les filles, dont on est très fiers. Et les nouveaux investisseurs, ils vont valoriser ça, les mêmes valeurs qui étaient jusqu'à là, les dernières 15 ans. Et donc, ils ont dit qu'ils vont déjà valoriser la session féminine, investir. Et la première chose, où ça va être la priorité, c'est d'améliorer encore plus le centre de formation. Donc, ça montre une bonne vision pour le futur, bien sûr. Et bien sûr, essayer de aussi avoir une équipe forte pour le maintien, garantir le maintien.
Et pourquoi pas, dans un cadre d'un match PSG-PFC, comment peut-être une victoire du PFC?
j'aurais jamais imaginé être dans une situation comme ça. Bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. Mais j'ai eu avec la finale de la Coupe de France, les filles, que le PFC a battu le Paris Saint-Germain. Et je crois que ça montre que la ville n'a qu'à gagner avec un autre club à Paris. Et je crois que même pour le Paris Saint-Germain, ça va faire du bien avoir un autre club ici, bien sûr, qui partage un peu les attentions, la pression. Et je suis très fier d'avoir fait partie d'un moment historique de foot parisien, cette fois-ci côté Paris FC.
Merci en tout cas à cet énorme monsieur Rai. Hein. Quel monsieur, hein, Stéphane Rai.
Quel joueur.
Ah ouais, quel joueur. Et puis alors, toujours très disponible quand on le rencontre, quand on le compte en interview. Hein. Ça avait été le cas pendant les Jeux et c'est fabuleux. Hein. Champion, énorme champion.
Énorme champion.
Hein. Ouais. Alors, la deuxième interview, on l'avait annoncé aussi, c'est Pierre Rabadan.
Pierre Rabadan, hein, son regard sur le Paris FC. Ouais.
Voilà, allez, le regard de Pierre Rabadan, donc l'homme du rugby.
Question, quel est votre regard sur l'évolution du Paris FC?
À mon regard, il est très positif. Je suis extrêmement heureux pour les accompagner depuis plusieurs années, de voir que le club continue de grandir. D'abord, j'ai été très heureux parce que j'y étais à Calais, de voir l'équipe féminine gagner la Coupe de France et continuer de les voir exceller au meilleur niveau, notamment en Champions League et toujours dans les trois meilleures équipes françaises avec Lyon et le Paris Saint-Germain. Et puis je suis très très heureux qu'enfin, après des années difficiles où l'équipe masculine n'avait pas réussi à monter, que cette année elle valide la montée en Ligue 1. Et puis voilà, avec l'arrivée au stade Jean-Bouin et à la proximité avec le Paris Saint-Germain qui va nous promettre de bons moments de football qui j'espère seront des fêtes et uniquement des fêtes. Mais je suis très heureux de la structuration du club, de la construction et de l'axe sur la formation qu'il continue de promouvoir et qui fera, je pense, du PFC un club fort sur la scène européenne dans les années qui viennent.
Pierre Abadan, donc l'homme du rugby, hein, qui s'est occupé des sports et qui va quitter ses fonctions dans quelques mois.
Voilà, enfin, exactement.
Ouais, et puis, à la fin de la mandature.
Voilà. En 2026.
Très bien. Alors, on disait justement de Pierre Ferracci. Donc, on parlait de ce patron qui a un petit peu un aspect social. Il aime quand même les gens et c'est toujours la sagesse au sein de son club, hein, Stéphane.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ouais. Je pense que la famille Arnaud a fait une bonne chose en laissant à la présidence du club. C'est pour les prochains mois en tout cas, parce qu'on en parlait dans, il en parlait d'ailleurs dans l'entretien, le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1 est jamais facile pour les clubs. Alors c'est pas forcément toujours la première année que ça commence à que ça tique, c'est souvent la deuxième année quand on gère moins ce on gère pas très bien ce passage. Et je pense que il a tout de suite trouvé le bon positionnement pour le club. Pas du tout contre le Paris Saint-Germain, pas du tout, nous avons, bien sûr, on s'en doute un petit peu que ça va être, quand il y aura des matchs Paris FC PSG, ça va être le côté populaire contre le côté plus bourgeois, plus riche, les pauvres contre les riches, quoi, les plus populaires, on s'en doute un petit peu, bien sûr, ça va être ça, tellement le Paris Saint-Germain est un club qui est richissime. Mais bon, lui, en tout cas, il est pas du tout sur cette longueur d'onde là, absolument pas. Et je pense que c'est très important. Et c'est il va jouer beaucoup de choses, je pense, parce que l'image, l'identité du Paris FC, elle va se faire maintenant, parce que
c'était à l'image quand même de son image.
Oui,
d'avoir travaillé dans
et du club, ça fait 10 ans, comme il l'a dit lui-même, ça fait 10 ans qu'il travaille dessus, mais. Avant qu'il y ait des places gratuites, il y avait 2000 personnes qui allaient regarder le Paris FC jouer un match à Charletti. Quoi.
Non, mais c'est une bonne idée.
Bien sûr, c'est une très bonne idée. Ce qui veut dire par là que ça intéressait quand même pas grand monde. Quoi. Donc ce club-là, on le découvre un petit peu. Donc c'est très bien, c'est maintenant que... Quoi, moi, je pense que maintenant, les mois qui arrivent sont très importants parce qu'ils vont permettre, ils vont lui permettre de positionner, de créer son image. Là, il va rentrer dans un tourbillon médiatique qui va quand même être complètement qui va être multiplié par 10, par 20, par 100 par rapport à ce qu'il avait à ce qu'il connaissait en Ligue 2 et donc ça va être multiplié par 100 et c'est très important de positionner bien l'image. Je pense qu'ils doivent aussi beaucoup communiquer et passer le message auprès de leurs joueurs, des joueurs de l'équipe et tout par rapport à ça sur cette espèce de d'image qui recherche à avoir. Quoi.
Et puis ce qui est bien, c'est les féminines et tous ces jeunes qui poussent derrière.
Tout à fait. C'est un très bon club. Bon, maintenant, faut quand même, je peux annuler que on peut quand même préciser que c'est quand même une des pires saisons du Paris Saint-Germain féminine qui a été. Quand il dit, je suis pas sûr que le Paris FC soit actuellement au même niveau que le PSG au niveau du foot féminin. Je ne suis pas certain. Maintenant, de cette saison-là, oui, sur cette saison-là, il a 100% raison, bien sûr. Mais je ne suis pas certain qu'il soit encore arrivé là, parce qu'on a eu une terrible saison du PSG.
Allez, on va maintenant donc revenir sur la Ligue 1, donc sur ce championnat, version 2024-2025. Donc on va rappeler le classement, hein, ce qu'on faisait régulièrement toutes les semaines, mais cette fois-ci encore plus en détail. Donc le Paris Saint-Germain qui remporte son 13e titre avec 84 points, deuxième Marseille 65 points, donc il y a 19 points d'écart entre les deux équipes, et troisième Monaco 61 points. Stéphane, ces trois équipes joueront, quoi qu'il arrive, la Ligue des Champions. officiellement.
Ouais, quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive.
Ouais.
Même si,
il n'y aura, aura pas de.
Il n'y aura pas d'élimination. Aura,
non, non, mais il n'y aura pas de.
Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose hein, de, d'avoir. Ouais. Oui, en plus de ça, voilà. En plus de, du barrage, quoi, du ouais. Deuxième.
Non, parce
du
que Marseille, 3... deuxième. Bon, Marseille, deuxième, c'était à peu près ce qui était prévisible cette saison, même oui. Si ça termine à 19 mois.
Voilà, oui. C'était ce qui était prévu. Donc, moi, non, non, non. Non, en fait, non, j'allais dire oui,
donc,
mais non.
Donc, c'est une surprise.
Mais enfin, pour moi, c'est pour moi personnellement, c'est une surprise.
Ouais, c'est une bonne saison. Plutôt,
oui, c'est une très bonne saison. Ouais. Bien que, quoi, c'est une très bonne saison.
Ah, si tu termines deuxième.
Oui, ouais. Mais c'est surtout une mauvaise saison du troisième et du quatrième.
Oui, on
mais,
on en parlait tout à l'heure.
Parce que Marseille, moi, sincèrement, on m'aurait dit top 5, top 4 en début de saison, j'aurais signé tout de suite, quoi. C'était vraiment plutôt ça que je voyais, quoi.
Alors, Alexandre, toi, l'OM deuxième, tu t'attendais à cette deuxième place de Dauphin derrière le PSG ?
Eh ben écoute, en toute, oui. En toute humilité, oui, je l'avais dit dès le départ que.
D'accord. Non, mais faut dire ce qui a été dit. Monaco troisième, 61 points. Alors Monaco, ils ont fait une drôle de saison quand même, assez inconstant. Hein. Et ils sont malgré tout là dans les trois premières places. C'est une équipe régulièrement qualifiée en Coupe d'Europe. Ils avaient terminé deuxième la saison dernière. Voilà, ils sont là. Et pourtant, c'est une saison très inconstante pour les, oui, les Monégasques. On est passé par par tous les résultats. Hein. Quand on les attendait, ils n'étaient pas là. Et puis
oui,
ils
mais est-ce qu'on n'est pas dur avec Monaco qui est Monaco finit à pas à combien de points ? 3
points. 61 points, ils sont à 4 points de l'OM.
À 4 points de l'OM, en jouant la Ligue des Champions, que l'OM n'a pas joué la Ligue des Champions, a joué un match par semaine, en quasiment sacrifiant son dernier match, parce que j'avoue, honnêtement,
ouais, enfin, ça, bon.
Honnêtement, j'ai pas vu le dernier match, mais prendre 4-0 à Lens contre cette équipe de Lens qu'on a vue, je pense que Monaco, ils étaient déjà en vacances, à mon avis, en étant qualifiés sûrs, ils n'étaient pas forcément si attachés que ça. Donc finalement... je pense que le résultat, finalement, le résultat des deux clubs, il est presque pas plus méritoire, mais il est au moins autant méritoire, ces 4 points, on va dire, de perdu de Monaco. Et c'est vrai que Monaco agace parce qu'on dit, on attend toujours beaucoup de Monaco. Moi, quand je vous dis que je voyais l'OM top plutôt 4 ou 5, je voyais Monaco devant, terminer devant l'OM, quoi, c'est sûr. Alors, ils sont effectivement un peu décevants par rapport à leur nombre de points. C'est ce qu'on disait, hein, même pareil, le nombre de points.
Non, puis par
le
résultat, il y a un jour c'était bien, un jour c'était moins bien. Voilà,
Mais voilà, ils ont été, donc ça s'est traduit au bout du compte par un nombre de points. Ça a été pareil pour Nice, ça a été pareil pour Lille, ce que je disais, quoi. Et n'en parlons pas de Lyon, de Strasbourg.
Mais on va en parler. Monaco, troisième, c'est bien. Ils sont assez régulièrement quand même présents dans les Coupes d'Europe, les Monégasques. Hein.
Oui, mais
ils étaient déjà deuxième l'année dernière.
C'est quand même une équipe qui agace quand même, parce que, comme tu as dit, elle est très inconstante en fait. C'est une équipe très inconstante. Et en termes d'effectifs, je trouve qu'au départ, elle a un meilleur effectif que l'Olympique de Marseille. Mais je sais pas, on a l'impression que. En fait, elle échappe au tourbillon médiatique aussi.
Ouais, c'est trop facile la vie sur le rocher.
Voilà, c'est facile. Donc, après, c'est quand même une bonne saison hein, finalement de Monaco. Mais moi, j'en attends
quand
toujours
on est troisième
en fait,
d'un
Monaco.
Championnat et qu'on fait une Ligue des Champions, c'est quand même fatalement une.
Mais j'en attends plus quand même, personnellement.
Alors le quatrième justement, on en parlait avec Stéphane, c'est Nice, 60 points, plus 25 au goal average, et qui devance donc Lille, cinquième, 60, mais plus 16 au goal average. Nice qui devra passer, Stéphane, par un tour préliminaire de Ligue des Champions, troisième tour préliminaire.
Ouais, c'est là que ça commence à m'agacer sérieusement, que j'aurais voulu voir toute autre équipe du top 5 à la quatrième place que
peut-être
Lille.
Peut-être Lille, parce que Lille, c'est une belle équipe quand même.
Lille,
c'est une
sûr.
Équipe qui est assez régulièrement
et
constante.
Et qui l'a prouvé, quoi, Lille, ou même l'enthousiasme.
Et qui va jouer la Ligue Europa, du coup.
Ouais, même l'enthousiasme d'un Strasbourg m'aurait plu davantage. J'ai juste constaté que les premiers... que Nice a complètement sabordé sa Ligue Europa, au nom de blessés et tout, mais bon, c'est une excuse bien facile, parce que quand t'as des joueurs un peu blessés, un peu malades, un peu, quoi, ça a été le cas plusieurs fois dans la saison, de les préserver pour qu'ils soient bons pour le match de championnat d'après. Donc c'était assez agaçant, et quand on voit le discours de Jean-Pierre Hivert, par exemple, le président, à la fin de la dernière journée, ça a été « Bon, on n'est que quatrième, on va voir ce qu'on peut. Si on peut disputer la Ligue des Champions, ça sera bien. Sinon, au moins, ça sera la Ligue Europa. » Bon, ben, moi, ça me donne pas, ça me donne pas le sentiment de quelqu'un de, d'hyper ambitieux qui déjà, déjà aborde le fait qu'ils vont pas se qualifier. Donc,
ouais, c'est dommage, quoi.
Et puis, je pense que le discours du côté de Nice va être, c'est, ça va être pareil. Puis, ça les fait commencer plus tôt, ça fait une préparation plus tôt, ça fait beaucoup de matchs dans la saison. On a vu ce qui s'est passé avec Lille. Lille a un peu craqué sur la, sur les derniers mois, certainement aussi par, par leur, leur fatigue physique. Donc, je sens pas que, que ça soit, que ça, je trouve pas que ça soit une bonne nouvelle, mais en tout cas, sinon, tant mieux pour eux. S'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité en tout cas plus que, plus que les équipes qui n'y sont pas.
Et Lille 5e, donc Ligue Europa, c'est un petit peu dommage, ils ont raté quelques matchs importants.
Ah ouais, c'est un peu dommage, Ligue Europa, mais bon, Lille va être, à mon avis, un sacré client quand même en Ligue Europa.
Oui. Alexandre ?
Bah, moi, je suis de l'avis de Stéphane. C'est-à-dire que c'est, je trouve ça un peu décevant que ce soit Nice aux dépens de Strasbourg et de Lille qui terminent quatrième. Parce que
mais Strasbourg, ils ont raté leur dernier match important
c'est
quand
ça.
Même aussi.
Oui, oui, non, bien sûr. Alors que Lille l'a réussi, il n'y a pas de souci. S'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Mais c'est juste décevant par rapport à ce qu'ils proposent, à l'effectif qu'ils ont à disposition. Et d'autant plus qu'on voit, en fait, ils se sont totalement sabordés dans les Europa. Donc se qualifier en Coupe d'Europe, c'est bien. Mais pour rien y faire, ça ne sert pas grand-chose.
Alors, le sixième, bah, c'est Lyon. Qui, comme l'année dernière, in extremis, arrache une place en Coupe d'Europe. Ça sera comme l'an dernier, une Ligue Europa avec 57 points. Ils terminent le même nombre de points que Strasbourg, qui est 7e, mais il y a un goal average qui est supérieur. Plus 19 pour Lyon et plus 12 pour Strasbourg. Du coup, Strasbourg va devoir passer par un tour préliminaire. Merci le Paris Saint-Germain pour les Strasbourgeois.
Ouais, bah, bien sûr. Hein, pour les Lyonnais aussi.
Et pour les Lyonnais aussi. Les Lyonnais, enfin, sinon, oui, mais ils étaient au moins sûrs de faire le tour préliminaire de conférence.
D'accord. Mais bon, déjà,
il
n'y
a pas de Coupe d'Europe. Hein. Il n'y a pas de Coupe d'Europe.
Quand,
hein.
D'accord. Mais quand on vise la Ligue des Champions et qu'on se termine en Ligue Europa conférence.
Ouais, enfin, je ne sais pas si cette année, Lyon visait la Ligue des Champions quand même.
Pour les finances du club, c'était très important.
C'était très ambitieux pour eux, à mon avis.
Bah, c'est pas passé loin, hein. C'est passé. C'est
leur points,
c'est, oui, mais c'est leur défaite.
57 points.
Mais oui, mais c'est 3 points.
Oui, oui, bah oui, 3 points.
3 points.
Il n'y a pas Ligue des Champions.
Voilà, ah, mais c'est pas passé loin. Mais, c'est pas passé loin de par la médiocrité des autres. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont, ils ont perdu à Angers, c'est ça, non?
Oui, c'est ça, je crois qu'ils avaient perdu à Angers.
Voilà, je crois qu'il y a, dans les toutes dernières journées, ils ont perdu à Angers. Ben, s'ils avaient gagné à Angers, ce qui aurait été normalement logique, hein, Angers était à l'époque 14e ou 15e, ils vont perdre à Angers en ratant complètement leur match et du coup ils perdent leur place. Et moi, je trouve, personnellement, je trouve que c'est alors là, c'est rattrapé par le mais moi j'aurais honte, quoi. Je veux dire, c'est rattrapé par le Paris Saint-Germain qui gagne, et aussi le, pas, faut pas oublier aussi le pénalty du Havre à la dernière, à la 96e
minute. Ça fait partie du jeu, ça.
D'accord, mais moi, j'aurais honte quand je vois, quand je vois les joueurs, le stade du Groupama Stadium, les joueurs être hyper heureux quand ils marquent son pénalty. Je veux dire, quelque part, comme moi, je trouve que Lyon a complètement raté, mais complètement raté sa saison. Alors là, je trouve que Lyon a vraiment raté.
Ils ont perdu Angers, en fait. Ils ont gagné leurs deux matchs, mais c'est surtout les matchs confrontation directe contre Monaco qui perdent et contre Lens aussi qui perdent.
Ils ont perdu un match, un des derniers matchs, à Strasbourg, mais c'était il y a plus longtemps.
Non, ils ont perdu contre Saint-Etienne le derby.
Ah voilà. Voilà.
C'était le derby. Il y avait longtemps que Saint-Etienne n'avait pas gagné le derby.
Voilà, c'était ce match que je disais. Avec, à chaque fois, en plus, dont je peux parler. Alors là, moi, je suis colère, quoi. Bon, je pense ce qu'en pensent les supporters de l'OL, avec, pour moi surtout, c'est Fonseca, c'est une catastrophe, mais une catastrophe totale, quoi. C'est-à-dire que ça a été une catastrophe, quoi. Il a fait tout le contraire de ce pourquoi il était venu, quoi. Donc, je veux dire, je trouve que c'est incroyable, quoi. Donc, vous vous rendez compte, juste une petite anecdote quand même à dire, ça, c'est pas le lien, je vais la dire très vite. Il y a un joueur qui s'appelle Paul Akoku, qui est international, je crois qu'il est ivoirien.
Ivoirien.
Même si, et ce joueur, sur toute la saison de l'Olympique Lyonnais, il a été deux fois titulaire. Deux fois.
Il le met
à l'aller et au retour contre Manchester United. L'équipe la plus nulle de engagée dans toutes les compétitions européennes.
Oui, qui a été en finale. Voilà.
Ouais, qui a été en finale, que déjà ce match-là contre Lyon, ils n'auraient jamais dû. Je ne sais pas s'il a été ou il n'a pas été particulièrement mauvais, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui peut lui passer par la tête? C'est important de dire ça, parce que résultat, le match d'après, Nemanja Matić, il fait sa crise, il fait semblant d'être blessé pour ne pas aller jouer à Saint-Etienne. Lyon perd à Saint-Etienne. pas uniquement parce que Matic n'était pas là, peut-être. Mmh. Et puis du coup, cette défaite à Saint-Étienne, ce que je disais, a pour conséquence de les priver de quasiment au bout du compte de Ligue des Champions. Quoi. Mmh. Donc je comprends pas. Quoi. Voilà.
Alors ensuite, deux équipes qui avaient été dans les trois premières du championnat ces deux dernières années, bon, là, elles sont un petit peu dans le ventre mou, c'est très souvent le cas. 8e Lens avec 52 points, 9e Brest 50 points. Bon, deux équipes, c'est toujours un petit peu dur hein, quand on fait des exploits comme avait fait Lens il y a deux ans, qui a terminé deuxième du championnat, et où Brest l'année dernière troisième. C'est toujours un peu dur de renouveler ce genre de performance et surtout de garder ses effectifs.
Ouais, mais c'est pas vraiment comparable quand même les saisons selon moi. Moi, par exemple, pour moi, Brest a fait une bien meilleure saison qu'un club comme Lyon, par
normal.
Exemple.
Ils ont fait les Coupes d'Europe, en plus.
Oui, ils ont fait les Coupes d'Europe.
Lyon aussi, tu me diras, mais enfin, bon.
Ils ont fait la Coupe d'Europe la tête haute. Ils ont fait des très bons résultats. Ils sont arrivés en huitième de finale contre le finaliste, hein, contre le Paris Saint-Germain, en barrage. Ils n'ont vraiment pas eu de chance non plus au tirage, comme beaucoup hein, de ceux qui sont tombés contre le
Paris Saint-Germain. C'est ça.
Contre le Paris Saint-Germain. Mais Brest, c'est pas mal quand même. 9e, je me rappelle très bien qu'on était ici, on parlait de la saison prochaine dans l'émission Au bout du foot.
Oui,
et puis je me rappelle de LH qui disait, et tout le monde était un peu d'accord avec lui, en disant l'année prochaine, ça va être une catastrophe. Attention à la descente. Attention à la descente pour Brest, ça va être une catastrophe. Oui. Finalement, 9e, et une place de... Ils ont... 13e, je crois, au classement général de la Ligue des Champions. 9e en championnat. Et moi, je pense que c'est une saison tout à fait intéressante pour Brest. Lens, après, bon, le génie, le président génial que tout le monde admire. Bah, il a vendu tous ses joueurs. Et puis maintenant, ils sont tous en train de casser du sucre, qui n'est pas mon entraîneur préféré, Will Steele, mais ils sont tous en train de casser du sucre sur lui, alors qu'ils lui ont enlevé tous ses joueurs pendant les différents mercato.
Allez, 10e Toulouse, 42 points. 11e Auxerre, 42 points. Bon, il y avait un plus 1 pour Toulouse au niveau goal average contre un moins 3 à Auxerre. Bon, deux équipes qui ont joué leur rôle, voilà, dans le milieu de tableau. De temps en temps, ils ont
joué leur rôle. Je suis pas sûr que le président de Toulouse, il dise parce que je crois qu'il il savait rien du tout. Il visait Toulouse, il visait l'Europe, hein. Il visait le top 8, hein. Au moins le top 7.
Ouais,
top 6,
c'est
hein.
Peut-être dans les présidents d'être
trop enthousiaste. Ou tu as raison, Philippe, c'est par rapport au niveau de l'équipe. C'est là-dessus que tu bases toi par rapport à l'effectif, le niveau de l'équipe, effectivement, c'est même pratiquement le mieux qu'ils pouvaient, je pense. Espérer ces deux équipes, hein, 10e, 11e ou l'inverse.
Alors ensuite, 12e Rennes, 41. On a eu très longtemps peur pour les Rennais qui ont flirté avec la relégation. Mais c'est vrai que Abibay a quand même permis à l'équipe de se maintenir. Il a remonté un petit peu cette équipe quand même. Enfin, c'est une saison très décevante pour les Rennais.
Ouais, c'est une saison décevante. Tiens, je me rappelle même plus.
Ils ont failli un moment.
Qui a commencé la saison.
Oui, c'est Julien Stéphane qui a commencé. Et puis il est arrivé après Abibay. Ouais.
Mais je crois pas. C'était si catastrophique que ça.
Ah oui, ils ont flirté avec la relégation au moment. Hein.
Ils ont été pire quand même avec Sampaoli.
Ils ont flirté avec la relégation à ce moment-là. Ah oui. Et Sebeik, c'est vrai qu'il les a quand même remontés. 13e Nantes, donc 36 points et 14e Angers, même nombre de points, 36 points, moins 13 au goal average pour Nantes et moins 21 pour Angers. Bon, bah, là, c'est deux équipes qui assurent ric-rac leur maintien quand même. Hein. Il va falloir se méfier l'année prochaine.
Ce soir, je suis en forme parce que Nantes, c'est pareil, c'est une catastrophe. Quoi.
Quelques années. Hein.
L'effectif de Nantes, c'est jamais 13e ou 14e. Quoi. Ça n'a rien à voir avec l'effectif.
Ça fait quelques années.
L'effectif, il n'a rien à voir avec Angers. C'est un effectif qui vaut, par exemple, largement Toulouse, largement Brest, largement Auxerre. C'est pas normal qu'il se retrouve là. Quoi. Mmh. Et je suis désolé, c'est quelqu'un de très sympathique qui joue bien au golf et tout, mais entraîneur, c'est pas possible. Quoi. C'est pas possible de...
Après, il faut rappeler comment ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé en pompier de service aussi, au final.
Comme souvent, d'ailleurs, il fait toujours pompier de service.
Il est resté parce qu'il les a maintenus. Mais moi, ça fait des
saisons. Il est du club quand même.
Au bout d'un moment, plus il continue comme ça, plus au bout d'un moment, ça va tomber.
Ah, mais c'est une catastrophe. Vous avez regardé les matchs. Là, c'était évident quoi, que l'Equita, ils allaient se séparer de lui.
Allez, 15e Le Havre. Alors ça, c'est vrai que ça a été l'inattendu. Hein. Le sursaut du Havre, ça m'a rappelé un petit peu le sursaut de Toulouse il y a quelques années avec Duprat lors de la dernière journée. Donc 34 points pour Le Havre. Et puis Barragil, du coup, Reims, donc 16e avec 33 points. Les Rémois qui sont allés faire match nul donc à Metz, un partout, après donc leur défaite au Parc 3-0. Bon, Le Havre, ça fait deux années de suite, c'est ric-rac, hein, juste avant les relégables. Hein. Mais bon, pour l'instant, ils se maintiennent, ça ne durera peut-être pas. Reims, c'est une grosse déception quand même. Hein.
Ouais, c'est une grosse déception, surtout que moi je leur prédis le pire. Hein. Je leur prédis vraiment le pire.
Mais
prédis vraiment le pire.
Mais la Ligue 2. Ouais. La Ligue 1, je veux dire, ouais, elle va quitter la Ligue 2.
Je le sens comme ça. Maintenant, ouais. Après, on ne sait jamais. Un match de foot, il y a des concours de circonstances et tout. Alors, on ne va pas juger non plus par rapport à ce qu'on a vu samedi en tellement c'était affligeant. C'était vraiment incroyable.
Avec une équipe, quoi.
Ouais, c'était incroyable, quoi.
Il y a pas de match.
Sincèrement, au bout de 20 minutes, je me suis dit, il va y avoir 12-0.
Oui, après, ils ont géré Paris. Ils ont mis un petit peu le pied sur le ballon tranquillement.
C'est fou,
ils ont été
quoi.
Gentils. Hein. Un petit peu comme les Herbiers, ça me rappelle finalement contre les Herbiers en 2018.
Mais après, bon, moi j'ai vu le match, surtout aussi le match à Metz. Hein, bon, la première mi-temps, elle est catastrophique. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Ils mettent un but sur corner, mais bon. Non, franchement, moi je les sens très très mal. Je les sens très très mal, Reims. Attends, Alexandre,
bon, on en parlera la semaine prochaine.
Ah bon, d'accord.
Allez, 17e, donc Saint-Etienne avec donc 30 points et 18e Montpellier, 16 points. C'est les deux équipes qui vont descendre. Bon, Montpellier, bah, là aussi, depuis quelques années, il frôlait la correctionnelle, ça devait arriver. Saint-Etienne, bah, décidément, il va avoir du mal, je pense, à être dans le maintien. Ça va être pendant plusieurs années la montée et la redescente, l'ascenseur. Hein. Dommage pour cette ville de football.
Ce club mérite beaucoup mieux que ça. Et c'est ce que... Là, il n'y a pas une mauvaise position par rapport à l'identité du club. Mais c'est ce que j'ai essayé de... ce qu'on discutait un petit peu avec M. Ferracci tout à l'heure. C'est-à-dire que l'année où on remonte, il y a des choses à franchir et tout. Et c'est bien beau de dire... bon, pour l'instant, on veut se maintenir, on ne veut pas investir beaucoup et tout, mais bon, il faut aussi prendre la dimension de ce que c'est que la Ligue 1, de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1, quoi.
Allez, on écoute la deuxième pause musicale, ensuite on aura le journal des sports d'Alexandre, et puis on finira ce point foot de la Ligue 2 nationale et des féminines avec notre invité du jour, donc notre ami Stéphane Desenclos. I can't stop
made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday.
Dreams of yesterday.
Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of you.
time. Sing the song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Voilà, bah, cette émission, naturellement, vous la réécouterez en podcast, hein, comme toutes les émissions des semaines précédentes. Alexandre, fou week-end de sport. Hein. Roland Garros, la Formule 1 à Monaco, le rugby, et puis aussi les frères Lebrun, hein, qui malheureusement n'ont pas été champions du monde.
C'est ça,
on
Philippe.
Commence avec Roland Garros.
On commence avec Roland Garros. Hier, journée marquée par l'hommage à Rafael Nadal.
Quel hommage,
évidemment. On a eu droit à une très belle photo d'ailleurs avec Murray, Federer, Djokovic et Nadal, évidemment. Mais on a quand même joué avec Mpechi, Péricard, le français qui s'est qualifié pour les 32e de finale. Malheureusement, Alcaraz n'a pas joué hier parce que Nishikori avait déclaré forfait. Mais Alcaraz a joué aujourd'hui, il s'est qualifié. Rune aussi s'est qualifié, Gasquet s'est qualifié également. Sinner joue dans 10 minutes. Et chez les femmes, l'une des favoris, la Russa Balenka, s'est qualifiée également contre sa compatriote Rakimova 2-0.
Mmh. Voilà. Et Caro Garcia,
c'est fini. Perdu.
Mais de toute façon, on sait qu'il y a une malédiction avec les Français et les Françaises à Roland Garros. C'est compliqué.
C'était la dernière fois qu'on la reverra sur Roland Garros.
Dernière fois, voilà. C'est ça. On ouvre une page sport mécanique et deux circuits mythiques ce week-end.
Monaco, c'est mythique. Hein.
C'est ça. On commence.
Qui loue le balcon à Monaco pour voir passer les voitures. On peut louer à Monaco les balcons pour voir passer les courses de Formule 1, bien sûr.
Oui. Je voulais commencer d'abord par le Grand Prix de Bretagne.
Qui n'a aucun intérêt, la course.
De Grande-Bretagne.
De Grande-Bretagne, oui. Le fameux Silverstone, remporté par l'Italien Marco Bezzecchi, suivi par le Français Juan Zarco et l'Espagnol Marc Marquez. Mm-hmm. Au classement, ce dernier est toujours leader devant son frère Alex et l'Italien Francesco Bagnaia. Juan Zarco, qui fait par ailleurs une très bonne saison, est 5e et Quartararo 8e. Mm-hmm. En F1,
alors,
4...
effectivement, comme disait Stéphane, souvent, ça joue dès le départ, un Grand Prix de Monaco.
Inintéressant, il doit être inintéressant, je ne suis pas un grand fan.
C'est quand même un Grand Prix mythique, c'était le 82e.
Il regarde tout Alexandre dans le week-end, ok, il peut te le dire.
Non, franchement, il était pas mal, 82e. Et bon, c'est vrai que forcément, Lando Norris qui était placé en pole position a finalement remporté la course parce que c'était assez logique, du coup, puisqu'il était premier. Charles Leclerc finit deuxième à la maison et Oscar Piastri finit troisième.
C'est-à-dire c'est la grille, ça.
Oui, ça c'est la grille d'arrivée. Mais
dans le départ aussi, non
De départ, oui. En fait, ça a suivi la logique. Oui, il n'y a pas eu de changement.
Et le sixième, c'est mon petit chouchou. Là, lui, je pense être un grand. Je me rappelle même, je ne suis même pas. Ajar. Il a 20 ans, je crois.
Il a 20 ans, le français. Ouais.
Ah ouais, c'est un,
c'est un futur grand. Mais en tout cas, c'est un excellent week-end pour McLaren qui solidifie sa place de leader devant Mercedes et Red Bull. Alpine est toujours 9e. Oscar Piastri est toujours premier au classement des pilotes. 3 petits points devant son coéquipier Lando Norris. Donc là, cette année, McLaren rafle tout. Championnat du monde de tennis de table à Doha. Pas grand-chose à retenir pour nos Français, si ce n'est la défaite justement des frères Lebrun.
Médaille de bronze quand même.
De bronze, c'est pas mal, mais bon, on attend
avec
toujours un peu mieux.
Avec un autre double français. Aussi,
oui. En tout cas, défaite 3-1 des frères Lebrun en demi-finale contre les Taïwanais Kao et Lin. En cyclisme, c'est toujours Isaac Del Toro, le leader après l'étape 15 du Tour d'Italie. Il est suivi de près par le Britannique Simon Yates et l'Espagnol Juan Ayuso. Compliqué pour nos Français parce qu'on a juste Nicolas Prudhomme qui est 20e actuellement. Donc c'est compliqué pour nos petits Français.
Bardet qui va arrêter.
Oui, Bardet il va arrêter.
Le dernier tour, c'est comme
il va arrêter.
Comme Gasquet.
Ouais, j'ai oublié de le dire, mais Bardet va arrêter. Ouais. En rugby.
Ah là là.
Alors Bordeaux en fait.
Un sur deux,
ouais. Mais en tout cas, grosse fête à Bordeaux.
Oui,
puisque ils se sont imposés en finale de la Coupe des Champions contre Northampton 28-20. Et première finale pour l'UBB et premier titre. Donc,
c'est le 5e club français à gagner une Coupe d'Europe en rugby. Et c'est la 5e année consécutive qu'un club français gagne la Coupe d'Europe de rugby.
Voilà. De toute façon, on était servi. Il y avait beaucoup de clubs français en lice encore. Par contre, bon, tu l'as dit, 1 sur 2, défaite de Lyon en finale du Challenge européen, 37-12 contre Basse.
Oui.
En basket, défaite de Monaco.
Ah là aussi, ah, ça a failli être l'espoir. Monaco était
après,
à deux
après,
doigts.
Après une victoire.
Oui, mais non, mais ils ont failli rejoindre Limoges dans l'histoire.
Hein. Ah oui, parce qu'ils ont gagné en demi contre l'Olympiakos 78-68, mais par contre, ils ont perdu contre Fenerbahçe, la marche était trop haute.
On va rappeler que
80-70.
C'est
l'Euroleague, hein. Oui. Déception pour les Monégasques, mais bon, ils font quand même une grosse saison. En championnat, on connaît les affiches des playoffs maintenant. Ah. Dijon et Chalon-sur-Saône sont les deux qualifiés des play-in. Ça nous donne donc Paris Basket contre Dijon, Cholet-Bourg-en-Bresse, Monaco-Le Mans et Lyon-Villeurbanne Chalon-sur-Saône. Mm-hmm. La première manche entre Paris Basket et Dijon, c'est demain à 21h.
D'accord, donc allez là-bas à l'Adidas Arena.
C'est voilà. Ça. Et on termine ce journal des sports avec le handball. Mm-hmm. La défaite de Montpellier en finale de la Coupe européenne.
Ouais. Une semaine après qu'ils aient battu le Paris Saint-Germain en finale
une
de
semaine,
Coupe de France au tir au but.
Ouais. C'est ça. Entre-temps, il s'est passé des choses parce qu'ils ont battu en demi-finale Kiel 32-31 justesse.
Ils ont parlé dans la zone mixte quand ils ont interviewé. C'était leur objectif. Malheureusement, bon, ça s'est moins bien passé pour la finale.
Ça s'est moins bien passé parce qu'ils se sont inclinés contre Flensburg 32-25. Malgré tout, bon, une bonne compétition pour le club français. En championnat, résultat de la 27e journée de la saison, le PSG a gagné à Nîmes 29-28, Ivry a perdu contre Tremblay 40-33 et Créteil a perdu contre le Cesson-Rennes 34-29. Alors, il reste 3 journées. Mathématiquement, c'est faisable pour Ivry qui a 9 points à aller chercher.
Pour se maintenir.
Se maintenir, oui. Mais à mon avis, ça semble irréalisable parce qu'il faudrait que l'autre club ne prenne le Cesson-Rennes, il faudrait qu'il prenne 0 points. Donc je pense que ça ne se fera pas malheureusement. Ivry ira sans doute en deuxième division l'année prochaine. Donc ça leur pendait au nez, on le dit depuis un an et demi maintenant. Mais à mon avis, ça va être compliqué. Par
et
contre,
le Paris
Créteil,
Saint-Germain bien parti pour être champion de France.
Justement, le PSG est leader, 4 points devant Nantes. Ouais. Donc là, c'est 51-47. Mmh. Et par contre, Créteil est avant-dernier, donc juste devant Ivry. Mais à 3 points de Cesson-Rennes, le 14e. Donc ça peut se jouer encore, il reste 3 journées. Mmh. Chez les femmes, 24e journée. Et le Paris 92 a perdu 32-28 contre Brest-Bretagne.
Il est temps que la saison se termine.
Ouais, très mauvaise fin de saison pour les Parisiennes, qui sont 9e au classement et ont dit adieu à l'Europe depuis quelques temps maintenant. Il reste 2 journées pour les femmes. Mm-hmm. Voilà, c'est terminé.
Championnat, Metz en tête. Avec
Metz en tête et juste devant Brest-Bretagne.
Mm-hmm. Voilà. Très bien. Merci. Donc Alexandre, bon, la semaine prochaine, il va voir Messi à Miami, donc il n'y aura pas de journée des sports. On le reverra. Donc,
il y aura une interview, par contre.
Après, oubliez.
On va parler un peu espagnol.
Sinon, viré. Non. Et puis on le reverra.
Je crois qu'il gagne plus rien là, c'est ça.
Là, c'est très compliqué l'interview.
Ouais, j'ai vu ça et qu'ils perdaient tous leurs matchs. Hein.
Allez, la Ligue 2. Donc, il y a eu 707 buts en Ligue 2, 787 buts en Ligue 2.
C'est pas vrai.
C'est une moyenne de 2,5. C'est pas mal quand même.
Alors, je vais super bien dormir.
On aime pour.
Non, mais c'est pas mal. Franchement, pour la Ligue 2, c'est pas mal.
Pour ça quand même, Stéphane.
Non, je chambre.
Moi aussi, je te chambre.
Je chambre parce que tout à l'heure, là.
Élie Junior Coupi, vous connaissez.
Ouais,
le joueur de
Lorient,
22 buts donc sur 30 matchs, une moyenne de 0,73. C'est bien. Voilà, bonne moyenne. Donc Lorient remonte en Ligue 1, 71 points, devant le Paris, deuxième le Paris FC, 69 points. On l'a vu avec le président Ferracci, ce sont les deux équipes qui retrouveront donc la saison prochaine la Ligue 1. Je dis bien retrouveront, parce que nous, on a connu aussi le Paris FC en Ligue 1. Troisième, Metz, 65 points. Donc pour toi, Stéphane, Metz va.
On en parlait tout à l'heure. Ouais. Alexandre n'a pas l'air très d'accord, mais moi je les sens pas du tout. Je les sens dans un très très mauvais trip là. Tout s'accumule là. Ils se font quoi qu'on dise un peu humiliés au parc au Stade de France en finale. Ils perdent leur dernier match à Lille et ils se font rattraper par ce penalty incroyable à la. Le pénalty le plus célèbre de France à la dernière seconde par le Havre. Et puis là, ils s'en font pas trop mal sortis à Metz. Mais moi, personnellement, je les vois bien perdre.
Je prends les paris avec toi, Stéphane. Ouais. Pour moi, Reims va se maintenir. Ouais.
Bon, on en reparle lundi prochain. Moi, je suis pas lundi prochain, toi, t'es pas là, mais nous, on sera là. Donc. On verra ça lundi prochain. Allez, quatrième, donc Dunkerque, 56 points, qui a fait une belle saison, Dunkerque, même si malheureusement, ils ont été battus ensuite au pré-barrage donc par Metz 1-0. Cinquième, Guingamp, 55 points. Guingamp qui aussi a fait une saison correcte, battu également dans le premier play-off par Dunkerque 1-0. Ensuite, sixième, Annecy, 51 points. Septième, Laval, 50 points. Huitième, Bastia, 48 points. 9e Grenoble 46 points, 10e 3 44 points. Stéphane, on en avait parlé, 3 était pas très bien à un moment, ils étaient parmi les relégables. Ils ont fait une belle remontée pour aller finir.
Ils ont été repêchés.
Championnat.
La saison dernière, ils ont été repêchés.
Ah oui, enfin bon, voilà, ça s'en m'a dit. Annecy, ils étaient passés près de la correctionnelle aussi.
Ils étaient dans un... Non, justement, ils étaient dans un mauvais... un mauvais trip, 3, ils s'en sont très bien... Ils ont très bien fini, eux, par contre.
11e, Amiens, 43 points. 12e, l'AC Ajaccio, qui n'était pas très bien parti aussi, qui a bien remonté, 42 points. Même nombre de points que Pau, donc, qui est 13e, mais un goal average supérieur, moins 12 pour Ajaccio, moins 14 pour Pau. 14e, Rodez, 39 points. Ouf, Rodez, donc, à un moment qui a flirté avec la relégation, mais Rodez qui a pu se maintenir.
Qui a été très mal pendant un moment, qui a enchaîné, je crois, à l'automne, une super mauvaise période, avec je ne sais pas combien de défaites et tout, c'était très compliqué.
15e, le Red Star, qui sauve, donc, et qui se maintient, qui sauve sa tête, donc, et qui se maintient. 15e avec 38 points. 16e, Clermont, 33 points. Alors, on en parlait la semaine dernière, des équipes qui se battaient pour se maintenir, mais Clermont se maintiendra puisqu'ils ont gagné les deux barrages. Ils avaient gagné à Boulogne-sur-Mer, donc 3-1 le match aller. Et hier, même s'ils ont été battus 2-1 par Boulogne-sur-Mer, donc ils resteront en Ligue 2 la saison prochaine. Ouais. C'est bien quand même pour cette ville de sport. 17e Martigues, 32 points, et 18e Caen, 22 points. Pour ces deux équipes-là, mais on l'avait souvent dit et toujours dit, les carottes étaient cuites depuis un petit moment. Donc, quand on jouera la saison prochaine en national, c'est incroyable. Ces clubs, ça arrive beaucoup. Dijon a fait pareil, Evian, Thonon, et puis il y en a eu d'autres dans le passé qui, en deux ans, passent de Ligue 1 à national.
Ouais, on en revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure quand on parlait de Comboiré, il avait sauvé Nantes, mais quid de du choix de Michel Derzakarian pour aller à Caen. Il est arrivé à une période où le club était tout, il y avait tout à fait le moyen de sauver le club. Quand il est arrivé à Caen, je sais même pas s'ils étaient relégables quand il est arrivé à Caen. Donc je trouve ça un peu quand même catastrophique. Donc quand même, Monsieur Derzakarian, grand monsieur, deux descentes dans la saison, une descente avec Montpellier, une descente avec Caen.
Ouais. Alexandre, t'en penses quoi du championnat de Ligue 2?
Bah, figure-toi
qui est quand même un bon niveau.
Voilà, ce que j'allais te dire. J'ai apprécié, comparé aux autres années, je trouve que là, c'était pas mal. C'est peut-être le resserrement de l'élite qui fait ça. Je pense que ça joue. Mais voilà, en tout cas, je suis content pour le Paris FC. Je suis content que le Red Star se soit maintenu. Mmh. Et concernant Martigues, je trouve que c'est mérité, parce que c'était une équipe très pauvre dans le jeu quand même. Et quand, voilà, ça leur pendait le nez.
Je suis d'accord avec toi. Martigues, j'ai pas trop vu jouer Martigues. Par contre, j'ai vu jouer d'autres équipes.
Mais dis-toi que j'étais allé voir un Red Star Martigues là-bas.
Alors,
à Bauer.
C'était pas compliqué. Moi, j'ai été voir le Red Star jouer aussi.
Le Red Star, c'est compliqué.
Le Red Star qui arrive à se maintenir en Ligue 2.
Ouais, je suis d'accord que ça se joue de peu aussi.
Ça t'inspire pas d'un grand niveau de la Ligue 2. Moi, j'étais voir Red Star Rodez.
C'est très compliqué.
Catastrophe.
Deux
vraiment,
équipes de bas de tableau.
Mais Rodez, non. Rodez, Red Star, c'était une N3 Rodez, Red Star contre une Ligue 2 Rodez. S'ils perdent pas 4 ou 5-0,
c'est ce qu'on aurait dû être le score. Contre le 15e.
Mais la façon de jouer de Red Star, d'ailleurs, ils ont grappillé plein de petits points comme ça.
Oui, c'est vrai.
Je crois qu'ils se sauvent avec une victoire sur Amiens décisive à...
Exactement.
Moi, je sais, j'étais avec des amis et tout. On regardait le calendrier pour voir où ils avaient pu prendre des points parce qu'on était quand même. Maintenant, c'est l'abnégation et tout. Et tant mieux pour eux parce que l'Île-de-France mérite d'avoir.
Six clubs, comme on l'a dit.
D'avoir un club. Puis leur stade, je sais pas quand il sera prêt, mais en tout cas, il faudrait bien accélérer aussi un peu les travaux parce que.
Après, il y avait un gap entre les 5-6 premiers et le reste, en vérité.
Mais là où tu as raison, quand tu parles de niveau, effectivement, même tu dis 5-6, mais même jusqu'à 7-8 et tout, tu avais un très bon, très bon niveau.
Même Grenoble, ça va.
Le top 5, Dunkerque et tout, c'était très
bien. Oui, c'est bon, Dunkerque.
Amiens, ils ont réussi à faire même s'ils sont plus loin, Amiens, mais ils ont réussi.
Laval, un moment, mais bon.
Voilà, Laval n'a pas été loin. À un moment,
Annecy aussi,
Annecy c'était pas mal.
Pourtant frôlé la correctionnelle il y a deux ans, mais
Donc c'est effectivement intéressant par le haut. C'est un peu le grand écart quand même. C'est un peu le grand écart. En bas c'est un peu compliqué.
Allez, le national, 34e journée. Il y a eu aussi 34 journées, naturellement. Nancy qui remonte, ça c'est bien, parce que pour tous ceux qui, les anciens comme nous, c'est bien que Nancy, quand même, ait sa place en Ligue 2, c'est quand même plus normal. Donc, premier Nancy, 65 points. Deuxième Le Mans, 58 points. C'est bien aussi, pour les Manchots qui ont été sur une bonne dynamique. Le troisième, c'est Boulogne-sur-Mer, 56 points. Donc, Boulogne-sur-Mer qui restera donc en national. Quatrième Dijon, 47 points. Cinquième Bourg-en-Bresse, 46 points. 6e au bagne, 45 points avec un goal average de plus 6. Il devance Orléans qui est 7e. Grosse déception, Orléans. Hein. Orléans qui jouait un moment la montée et il y a eu une chute et il termine 7e avec 47 points. Avec 45 points. Ouais, c'est dommage, hein, parce qu'à un moment, il joue la montée.
Hein. Compliqué, le championnat. Ouais, ouais. Il est super compliqué, le championnat.
Bah, le problème, c'est qu'on reste professionnel pendant 2 ans, pour ceux qui descendent. Après, c'est le statut amateur. Donc, si les équipes gardent le salaire qu'ils payent aux joueurs, si on ne monte pas dans les 2 ans, ça pose des problèmes financiers.
C'est vrai qu'ils sont en train de voir pour, ils sont en train de voir pour professionnaliser, justement, la troisième division.
C'est compliqué. Ouais. Ah, ouais. 8e, Concarneau, donc 42 points. Concarneau, il y a eu plus de 2. Le 9e, c'est Valenciennes, plus le 2. Et c'est au nombre de buts marqués. 48 buts pour Concarneau et 38 buts pour Valenciennes. Les 10e, c'est Rouen, 40 points. Le 11e, c'est Quevilly-Rouen, 40 points aussi. Plus 3 et moins 10 pour... Donc plus 3 pour Rouen et moins 10 pour Quevilly-Rouen. 12e, Sochaux. On en parlait, le président Plessis. On en parlait tout à l'heure.
Ça, c'est quand même une grande déception. Off, ouais. Sochaux-Valenciennes. 12e, 38 points.
Il essaie de remonter l'équipe quand même tout doucettement, le président Plessis.
Ouais, mais le président Plessis... avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir la saison dernière. Je crois que la saison dernière, ils avaient longtemps été en course pour monter. Je ne sais pas s'ils n'ont pas terminé 5e ou 6e. Et il était très, très enthousiaste et très, très, très ambitieux pour les années après par rapport à plein de jeunes. Il m'avait dit, je retrouvais un petit peu l'époque des Pedretti et tout ça.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est un peu étonnant de les voir là. Je crois qu'ils ont nommé leur entraîneur. Je ne sais pas.
Si,
ils ont nommé un nouvel entraîneur.
Ouais.
Et c'est pareil, grosse déception pour Valenciennes, qui, à mon avis, fera parler de lui l'année prochaine.
Ouais, ils ont un peu de mal, Valenciennes.
Ils ont nommé Stéphane Moulin. Par contre, je me rappelle du nom. C'est Stéphane Moulin qui va prendre Valenciennes.
Ah, c'est l'ancien entraîneur d'Angers.
Et de Caen. Mmh. Et Sochaux aussi, ils ont changé d'entraîneur.
Allez, Versailles 13e, donc il y a eu 36 points. 14e, le Paris 13, Atlético 35 points. Les deux équipes franciliennes, on en a beaucoup parlé, ont quand même réussi à se maintenir. Devant, Villefranche en Beaujolais, qui est 15e avec 34 points. Et les deux équipes qui descendent donc en National 2 la saison prochaine, c'est 16e Châteauroux, 33 points. Et 17e Nîmes, 22 points. Deux grosses villes de football, hein, c'est quand même dommage. Hein. Et remplacé par Le Puy, Saint-Brieuc et Fleury-Mérogis.
C'est
bien dommage. Allez, on termine avec les féminines. Donc là, il n'y avait pas de surprise, hein, Stéphane. Hein, les féminines, on sait qu'on demande à quoi servent les playoffs d'abord. Hein. Lyon qui était en tête à la saison régulière, 62 points devant le PSG, 2e 52, 3e le Paris FC 45 et 4e Dijon 43. Et puis Lyon qui a gagné sa finale devant le Paris Saint-Germain 3-0. Et les playoffs qu'on confirmait les saisons régulières. Après, on a eu Fleury-Mérogis, 5e, 33 points, 6e Montpellier, 33, 7e Nantes, 23, 8e Le Havre, 21, 9e Strasbourg, 17 points, 10e Saint-Etienne, 17 points, 11e Reims, 15 points et 16e Guingamp, 9 points. Il y a encore du mal quand même pour la lisibilité du championnat de France.
Un petit peu, avec une dernière journée, Strasbourg, c'est un scénario à la Le Havre Strasbourg, mais cette fois-ci en faveur de Strasbourg. C'est Strasbourg, je crois, qui a gagné, qui était mené à 5 minutes de la fin, qui perdait à 0, qui a mis 2 buts en 5 minutes, dont le deuxième dans les arrêts de jeu, pour se sauver sa place.
Donc Lyon, quand même, qui gagne le championnat. On va rappeler qu'Arsenal a battu Barcelone pour la finale de la Ligue des Champions 1-0. Ouais. C'est une année anglaise, hein, puisque Tottenham a aussi battu Manchester United en Ligue Europa 1-0, et puis que Chelsea va peut-être battre le Betis Séville pour la Ligue Europa Conférence. Donc, ça sera une année
anglaise. Personnellement, je préfère oublier qu'il y ait une finale.
Oui, c'est vrai que c'était pas un beau match. Hein.
Le match Clermont...
Ah non, je parle de Tottenham.
Non, mais le match Clermont-Boulogne ou Metz-Reims était mieux que la finale...
Le défi. La finale défi, tu veux dire.
Non, des garçons de Tottenham.
Le match de barrage.
Non, mais le match, pas la finale.
Tu voulais poser une question sur le foot féminin. Il nous reste 4 minutes.
Sur les féminines, à leur meilleur niveau en équipe PSG féminine, qu'est-ce qui manquerait peut-être au Paris FC, parce que tu le soulignais tout à l'heure, pour être
beaucoup de choses,
rival, enfin voilà.
Beaucoup de choses.
Le président l'a dit d'ailleurs. Hein.
Beaucoup de choses et principalement
dangereuse,
de l'argent, quoi.
Ouais.
Pour pouvoir acheter des grands jeux et tout. Mais bon, là, je ne sais pas ce que va faire le PSG, mais comme ils ont un peu tout. Est-ce qu'on connaît le nom de l'entraîneur de l'année prochaine?
On ne sait pas, mais il y aura beaucoup de départs aussi, hein, je pense.
Ouais. Ouais. Et Katoto qui va aller. Je ne sais pas si elle va aller. Oui, elle va à Lyon, c'est
oui.
Officiel,
ouf.
Et qui va à Lyon. Et
Karchaoui sur le départ aussi, apparemment. Enfin, il y avait des tensions.
Ah non, Karchaoui,
au final, elle fait un.
Ah, okay. Je crois qu'elle, je sais pas, justement, elle a toujours dit que c'était le club de sa vie et tout. Et
ah,
que,
ok, donc, ok.
Et qu'effectivement, il y a eu des tensions avec.
Bah oui, c'est ça.
Avec notre ami le Marseillais, là, qui les a entraînés, qui les a complètement plantés, quoi. Et donc voilà, maintenant c'était une saison tellement. Je pense qu'il faut de l'argent pour pouvoir avoir des joueuses. Et ouais, c'est ce qui
je l'ai dit, pour être lisible, le championnat c'est compliqué. Hein. Féminin, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a que Lyon et le PSG. Hein, pour
on a beau critiquer le Paris Saint-Germain avec ses budgets et tout, mais quand même, ce à quoi on assiste depuis maintenant au moins 3-4 saisons, c'est que l'Olympique lyonnais prend toutes les meilleures joueuses du championnat. Il y a toutes les meilleures joueuses du Paris Saint-Germain de ces dernières saisons, elles sont à Lyon. L'attaquante,
talents,
là, Diani, la Chawinga, la meilleure joueuse de l'année dernière, qui en plus a perdu sa place à Lyon. L'année prochaine, ça va être Katoto, la gardienne de but, là, qui a été meilleure gardienne de but cette saison, qui était au PSG il y a 2 ans. Elles sont toutes à Lyon, ils les achètent toutes. Alors après... Je me fais rire quand, à l'époque, c'était déjà le président Aulas, quand il critiquait l'argent du Paris Saint-Germain et tout. C'est ouais.
On parlait de Pierre Rabhan tout à l'heure, peut-être le futur maire de Lyon, hein, Jean-Michel Aulas.
Ouais. Par contre, là, je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve que les play-offs ne servent pas à grand-chose.
Oui, mais non, ça confirme la saison régulière. Ouais, hein, donc, vraiment. Ça sert pas à grand-chose. Tu me diras, en Ligue 2, c'est presque un petit peu pareil. Hein. Ouais, les clubs 4e et 5e n'ont pas pu battre le 3e. Enfin, ça, c'est une autre paire de manches, une autre histoire. Merci Stéphane d'avoir été notre invité.
De rien, quand vous êtes dans la bouche, je trouve, vous m'appelez. Hein.
Non. Mais on te retrouve la semaine prochaine au téléphone. Merci Vanessa d'avoir parlé ballon rond. Hein. Puis on retrouve ton podcast que tu as fait sur donc, Hors les murs, sur le hand à Meudon. Hein. Il est déjà en ligne.
Exactement,
voilà.
Tout à fait.
Salut Alexandre.
Salut Philippe.
Bonne interview de Lionel Messi à Miami. Hein,
puis je vous ramènerai des exclus.
Le 16 juin et nous, on sera là la semaine prochaine. Merci en tout cas à Jason d'avoir été une nouvelle fois brillant pour la mise en route de cette émission. Puis le foot, on va continuer à en parler. Hein. On va parler de foot étranger notamment. Hein. On va donner les derniers résultats des championnats et puis toute l'actu foot. On va continuer à en parler avec El Hadji et toute son équipe. Belle soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous êtes à la radio du sport. On vous retrouve la semaine prochaine. Belle soirée à toutes et à tous. Et on finit comme chaque lundi par un petit fond musical. Bye bye, à la semaine prochaine.
Choses par ce mot et reviennent. Oui, ma vie, c'est un manège, comme une chanson, c'est le temps qui l'entraîne. Surtout, n'allez pas croire quand un amour s'en va, qu'il sera le dernier. Car ma vie, c'est un manège qui ne cessera jamais de tourner. Tigresse. À la fois femme et fille, je n'ai que le visage de l'instant qui vient. Car ma vie c'est un manège, et mon Dieu que ce manège tourne bien. Parfois c'est vrai, je suis trop libre, et je n'entends pas la raison. Je marche sur je le quille, mais je veux bien être captive de qui fait des quatre saisons un monde qui chante et qui brille, qui chante et brille.
fait.